autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous interroger sur une très longue relation essentielle, vitale, celle qui unit les hommes aux rivières et aux fleuves. C'est autour d'eux, dès les origines, que les hommes se sont installés, ont pêché, navigué, construit des villes, puis se sont servis de l'énergie du courant pour développer les échanges et la circulation des hommes et des biens. Mais c'est aussi là, au bord des fleuves en crue, que les hommes ont dû faire face aux inondations, apprendre à lutter contre les méfaits fait de l'eau. Alors comment remonter le cours de cette relation paradoxale, duel, entre les hommes et les fleuves? En quoi cela peut-il nous aider à mieux appréhender les questions écologiques qui se posent aujourd'hui? Voilà ce que nous allons nous demander avec notre invité, l'hydrobiologiste Christian Lévesque, qui a passé sa vie de chercheur à l'IRD au fil de l'eau, sur le continent africain comme sur le continent européen. Il vient de publier « Mémoire des fleuves et des rivières » autour de la question « Quelle relation entre les hommes et les cours d'eau ?» Bienvenue pour nous interroger ensemble. Bonjour Christian Lévesque.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous pour partager cette riche et longue histoire que nous les hommes partageons, entretenons pour le meilleur mais aussi pour le pire avec les fleuves, les rivières et les cours d'eau. Vous êtes hydrobiologiste, écologue, directeur de recherche émérite à l'IRD, spécialiste des milieux aquatiques continentaux que vous avez étudié sur le terrain, sur le continent africain d'abord, puis en Europe et en France. Auteur de plusieurs ouvrages de référence, on peut citer Poissons d'Afrique et Peuples de l'eau, mais aussi Quelle rivière pour demain, point d'interrogation. Vous venez de publier aux éditions Ulmer, Christian Lévesque, La mémoire des fleuves et des rivières, sous-titré L'histoire des relations entre les hommes et les cours d'eau à travers les siècles. Notre histoire humaine, on peut le dire comme ça, elle s'est écrite, elle s'est construite au fil de l'eau, au bord des fleuves et des rivières depuis les origines et sur tous les continents.
Sur tous les continents, et je crois qu'il y a effectivement, les hommes ont largement profité un peu partout des bienfaits de l'eau et de la proximité de l'eau pour développer leur civilisation.
Oui, parce que l'eau, c'est à la fois source de vie, bon, c'est aussi source de destruction.
Oui, c'est, je t'aime moi non plus.
C'est voies de navigation, bien sûr, ça peut être aussi frontière, et puis c'est source de nourriture, c'est source d'énergie. Vous rappelez cette analogie, les rivières comme nos artères, c'est elles qui irriguent nos territoires.
Ce sont elles qui irriguent nos territoires dans la mesure où autrefois les moyens de communication passaient essentiellement par la navigation fluviale. Il y avait, du temps des Romains, du temps des Gaulois, il y avait des milliers de bateaux qui sillonnaient la France et qui transportaient les hommes et les marchandises.
Et les hommes ont appris à utiliser au fond toutes les ressources, tous les services utilisés par les cours d'eau tout en se méfiant de leurs humeurs ou de leurs crues, de leurs inondations, de leurs excès.
Oui, alors les premières utilisations de l'eau ont été probablement au niveau des agriculteurs itinérants qui avaient des animaux domestiques, et l'eau était l'attrait finalement de ces éleveurs. Et on en a profité également sur les limons fertiles des vallées, parce que un fleuve a des limons. On connaît les limons du Nil qui inondaient la vallée du Nil. Donc on en a profité pour faire aussi de la culture sur ces limons. Donc voilà, l'eau a attiré toutes ces civilisations
d'abord
agricoles.
D'abord les éleveurs, les pasteurs, et puis les agriculteurs.
Et puis les agriculteurs. Et ensuite, à partir de ça, on a commencé à faire du commerce, à développer la navigation. On a commencé à essayer d'utiliser l'énergie de l'eau. Et ça, c'est une grande particularité des pays européens par rapport aux autres pays du monde, à ma connaissance.
Et notamment sur le continent africain, que vous connaissez bien. On a moins utilisé l'énergie de l'eau qu'en Europe avant la révolution industrielle, disons.
En France, à une époque, il y a deux siècles à peu près, on avait pas loin de 100 000 moulins sur les rivières et sur les fleuves et rivières de France. 100 000 moulins qui servaient à la fois à moudre le grain, bien sûr, mais aussi à animer des industries, des petites industries. On avait des forges qui étaient animées par des moulins, on avait des petites industries qui travaillaient le fer, qui étaient animées par des moulins. L'énergie venait des moulins à eau, et il y avait bien sûr les moulins à vent, mais les moulins à vent étaient beaucoup plus difficiles à utiliser que les moulins à eau.
Finalement, les hommes se sont servis de toutes les ressources des rivières. Et puis du coup, vous, en tant qu'hydrobiologiste, donc vous étudiez la vie hein, dans ces milieux aquatiques, et écologue, vous êtes, c'est forcément des disciplines qui sont interdisciplinaires, parce qu'au fond, il s'agit de l'eau, du vivant, de la culture, de l'agriculture, de la navigation, enfin, de la pêche.
Oui, alors, bon, je crois qu'il faut, être très clair, l'écologie ne peut plus se contenter d'être simplement l'étude des animaux, des plantes qui vivent dans l'eau. L'écologie, c'est aussi la prise en compte des aspects humains de cette utilisation des rivières, et je crois que j'ai eu l'occasion de diriger le programme environnement, vie et société du CNRS, où de toute évidence là, on essayait de rassembler différentes disciplines pour travailler sur un objet commun qui était le cours d'eau, ou qui était une forêt ou un champ, peu importe, hein, mais l'objet devait être de toute façon abordé de manière multidisciplinaire.
Autour de la question, quelle histoire entre les hommes et les fleuves, et les rivières et les cours d'eau ? On commence par un petit tour d'horizon, si vous le voulez bien, au fil de l'eau, bien sûr, sur tous les continents, à commencer peut-être par celui qui est un des plus chers à votre cœur, où vivent la majorité de nos auditeurs, le continent africain mix aquatique, signé Hugo Violas.
Le long de la falaise de Bandiagara, une chaleur écrasante a presque entièrement asséché les lacs et les rivières du pays Dogon, piégeant les poissons dans des mares boueuses. Les Dogons en profitent pour organiser une grande pêche collective.
Aujourd'hui, chaque Parisien consomme en moyenne 140 litres d'eau par jour, dont la moitié provient de la Seine. Trois usines de traitement d'eau alimentent la capitale.
80 km de berges, 4800 hectares de superficie, le lac du Der est le plus grand lac artificiel d'Europe.
On se trouve devant l'embouchure de la rivière de Camopi, dans la rivière de Yapok, qui forme la frontière entre la Guyane et le Brésil.
Tu viens avec nous, on va se baigner avec des copains.
Vous allez à la piscine ?
Non, on va se baigner dans la Deule.
Dans la Deule ?
Ouais, près de l'île aux oiseaux.
On a souvent appelé Bangkok la Venise de l'Extrême-Orient, car une grande partie de sa population vit sur les canaux et les eaux dormantes de la rivière, appelée Klong. Très récemment encore, les Klong étaient presque les seules voies praticables pour les transports et les communications.
L'histoire des hommes et des cours d'eau, c'est fondamental pour comprendre les recherches sur l'origine de l'homme en Afrique.
Les villes sont construites effectivement à proximité des rivières, c'était fondamental dans l'Antiquité, et en particulier au Proche-Orient où les pluies étaient bien trop faibles, parce que c'était vital pour pouvoir cultiver autour les champs et nourrir la population des villes.
Vous voulez réagir à ce mix aquatique, est-ce que vous venez d'entendre, Christian Lévesque ?
Ah, on dit souvent que la civilisation, la nôtre en tout cas, a débuté sur les rives du Tigre et de l'Euphrate, hein, le croissant fertile, c'est-à-dire une zone de marécage. À l'époque, oui, c'était peut-être pas comme maintenant, mais il y avait déjà beaucoup d'eau.
Oui, c'est vraiment l'origine de l'homme, oui. au bord du Tigre et de l'Euphrate. Et puis, c'est vrai que c'est autour des grands fleuves. On a évoqué le Nil, on peut parler en France du Rhône. C'est toujours autour des grands fleuves que naissent les civilisations. Est-ce qu'il y a des peuples qui sont plus des peuples de l'eau, pour reprendre le titre d'un de vos ouvrages consacré au continent africain ? Est-ce que...
Oui, alors... Il y a bien sûr aussi des peuples qui se sont développés en dehors de l'eau. Je pourrais prendre l'exemple des Peuls ou des Touaregs.
Bien sûr.
Encore que, vous savez certainement qu'il y a quelques milliers d'années, le Sahara était vert
et fertile. Donc,
voilà.
Ouais.
Mais ce qui est évident, c'est que ces peuples nomades, d'éleveurs, ont toujours besoin d'eau. Ils ont besoin de points d'eau. Et la rivière est toujours un élément très attrayant pour ces éleveurs.
On peut dire que notre histoire s'est écrite obligatoirement en lien avec l'eau. On a automatiquement besoin d'eau, ou besoin d'un point d'eau, que ce soit une rivière, un petit cours d'eau. C'est quoi d'ailleurs la différence ? Le fleuve est plus grand, il jette dans la mer, entre fleuve, rivière, cours d'eau
Là, on rentre dans des discussions un peu byzantines. Le fleuve, par définition, se jette dans la mer. Mm-hmm. Ensuite, on a des grandes et des petites rivières. Voilà, mais bon, certains ont essayé d'avoir une certaine hiérarchie dans ces cours d'eau. On distingue des cours d'eau d'ordre 1, 2, 3, 4, selon la place dans le bassin versant. Mais je veux dire que restons simples.
C'est un peu la même chose, c'est plus petit. Un cours d'eau, c'est plus petit, une rivière un peu plus grand, et un fleuve encore plus grand.
Et un ruisseau, c'est pas grand.
Et un ruisseau, c'est pas grand, d'accord. Ça, jusque-là, on avait compris. Et un petit rue encore, c'est tout petit. Au fond, pour reprendre le titre de votre livre, La mémoire des fleuves et des rivières, c'est cette mémoire-là qui vous intéresse, parce qu'au fond, alors, pas seulement pour les archéologues, mais au bord des rivières, au bord de l'eau, il y a toute la mémoire de l'humanité.
Alors, il y a effectivement toute cette mémoire de l'humanité, mais moi, j'ai pris l'approche un peu en tant qu'écologue. Et je me suis posé la question, comment ces rivières ont-elles évolué au cours du temps en fonction des aménagements que les hommes avaient pu faire pour leurs activités économiques, hein, pour faire de la navigation, pour faire de l'énergie, pour faire de la pêche, hein. Parce qu'on parle de l'eau, de la rivière, mais il faut quand même savoir que chez nous, en Europe, en France, on a un tiers des espèces de nos rivières qui ont été introduites simplement pour pratiquer la pêche sportive en particulier. Mais souvenez-vous aussi de la carpe qui a été introduite au Moyen-Âge pour aller alimenter les populations pendant les périodes de carême. On avait 140 jours de carême à l'époque. Hein.
Donc il fallait beaucoup de carpes.
Bon, il fallait beaucoup de carpes. Hein. Donc voilà, donc tout ça, ça fait partie des aménagements qui ont construit notre diversité biologique en Europe.
En fait, c'est ça, c'est-à-dire que ce qu'on appelle naturel, est-ce qu'il y a encore des rivières sauvages ou des fleuves sauvages? Est-ce que ça a un sens même de dire ça? Puisqu'au fond, quand on vous lit, on se rend compte que oui, c'est depuis toujours, c'est un aménagement, c'est une coévolution en fait entre l'homme, les rivières, enfin la nature, c'est le rapport à la nature.
Oui, alors la rivière sauvage, c'est un peu une représentation mythique, hein, de ce que peut être une rivière. Alors, je peux vous dire très rapidement que on distingue un peu trois grands ensembles dans une démarche d'étude de la rivière. Il y a la rivière naturelle, naturaliste, hein, celle que décrivent les hydromorphologues, les écologues, les hydrologues, etc. Ça, c'est l'objet d'étude, si vous voulez. Il y a cette rivière vécue, c'est-à-dire celle que l'on utilise, hein, mm-hmm. pour pêcher, pour naviguer, pour faire de l'énergie. Et puis c'est son petit coin de vie, quoi. C'est son cadre de vie aussi, la rivière. On aime bien s'y promener, on aime bien flâner. Hein, ouais. Voilà, et c'est très important, je crois qu'il ne faut pas tourner
autour. Oui, l'importance pour nous de tout ce que ça représente de manière sensible.
La valeur affective, je veux dire, d'une certaine manière. Et puis il y a un troisième ensemble qui est celui un peu de ceux qui prétendent que la nature se conserve en dehors de l'homme, c'est-à-dire la rivière sauvage qui n'a jamais été touchée par les activités humaines, ce mythe un peu d'une rivière qui serait une rivière qui n'aurait pas été artificialisée par l'homme. Vous savez, ce qui est sain, ce qui est beau, c'est ce qui n'a pas été touché par l'homme. Hein. À l'heure actuelle, on vous parle du bio, on vous parle de tas de choses, c'est bon, voilà. Donc voilà, c'est ces trois ensembles.
Et vous dites que c'est presque mythologique, ça, c'est presque imaginaire, parce qu'au fond, une nature, et là en l'occurrence une rivière ou qui n'a jamais été touchée par l'homme, c'est rarissime. Il y a des aménagements
Il y a toujours plus ou moins des aménagements. Mm-hmm. Je veux dire, si vous prenez les petits torrents de montagne, on peut trouver quelques petits torrents qui n'ont pas été aménagés. Mais quand on vous parle de la Loire, le dernier fleuve sauvage d'Europe, c'est faux. C'est complètement faux. La Loire a été hyper aménagée. Elle a d'ailleurs été la première à être aménagée avec des digues pour éviter les inondations.
Justement parce qu'elle était dangereuse. Oui.
Et pour protéger les cultures. Et non pas au départ pour les hommes, pour protéger les cultures. Ensuite, on a protégé les hommes. Donc, la Loire, en fait, elle s'est ensauvagée. Réensauvagée après que la navigation est disparue pratiquement sur la Loire, on a vu repousser les arbres. Parce que je vais vous expliquer un petit truc, c'est que pour faire la navigation, on avait des chalands qui étaient tirés par des chevaux. Il fallait donc des chemins de halage.
Et pour que ces chemins,
pour que ces chemins de halage ça fonctionne, il fallait pas qu'il y ait d'arbres. Donc on avait coupé tous les arbres au bord de la rivière. La rivière n'était pas bordée d'arbres, il fallait bien pouvoir passer. Hein. Donc la rivière, quand on a supprimé la navigation et le halage après, avec la navigation à vapeur, les arbres ont repoussé. La rivière s'est réensauvagée d'une certaine manière.
Alors maintenant, c'est un mouvement perpétuel, mais en fait, elle s'est réensauvagée.
Elle s'est réensauvagée. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la Loire sauvage. C'est un artefact.
Parce que vous l'avez dit, donc les rivières, les fleuves ont beaucoup servi de voie de circulation aux hommes pour les marchandises. Elles ont parfois été frontières également, mais aussi voie d'exploration du monde. Hein. À ce sujet, nouvel éclairage du paléoanthropologue Pascal Pic, qui était récemment notre invité.
Les rivières ont toujours été les autoroutes du passé. Ça fait que très peu de temps que nous sommes affranchis, justement. Et là, avec une aversion, les rivières nous emmerdent parce qu'il y a des ponts, il faut les traverser, il y a des crues, il y a des barrages. Eh bien oui, il va falloir effectivement repenser ce qu'a été les rapports pendant des millions d'années entre l'humanité et les rivières et leur capacité d'explorer le monde.
Qu'en pensez-vous, Christian Lévesque? Comment repenser justement cette relation aujourd'hui, alors que effectivement les rivières, les fleuves, ça n'est plus. On peut naviguer dessus, mais c'est pas comme ça qu'on explore le monde aujourd'hui, ni qu'on voyage.
Ah, on explore encore le monde en naviguant dessus. Je veux dire, en Amazonie, on peut encore imaginer pouvoir circuler.
Le long de l'Amazone, absolument. Oui.
Au Congo, en partie aussi, en sachant que il y a quand même aussi des obstacles naturels dans les rivières. Il y a des obstacles artificiels, mais vous avez quand même des rivières avec beaucoup de chutes. Et le Congo, ou des rapides. Mmh. Et je sais qu'en Guyane, par exemple, ou en Amazonie, beaucoup de fleuves sont difficilement navigables à cause de ces rapides. Bon, alors, comment repenser la rivière? Moi, je crois que d'abord, il faut accepter l'héritage que nous avons. C'est-à-dire que ce sont des rivières qui ont servi, qui sont des patrimoines d'une certaine manière. Ce patrimoine, il est en partie construit. On a fait des ponts, on a fait des moulins, on a fait des seuils, on a fait des retenues. Tout ça, c'est peut-être parfois obsolète, et peut-être que ça n'est pas nécessaire de continuer à les conserver. Mais on peut aussi penser que c'est un patrimoine, que ce patrimoine industriel, dont on parle beaucoup maintenant, les patrimoines, il faut peut-être aussi le préserver. Donc il faut éviter surtout d'avoir une vision un peu que j'appelle jacobine, c'est-à-dire on fait tout la même chose partout. Je crois que dans certaines régions, on peut imaginer maintenir des moulins, des châteaux. Dans un autre endroit, on va essayer de restaurer des rivières pseudo-sauvages parce que ça permet à certains poissons de circuler. Mais
il faut faire au cas par cas, en fait. Et vous citez d'ailleurs, je crois que c'est dans ce livre d'ailleurs, l'exemple d'un lac, on a entendu un petit mot dans le mix, d'un lac artificiel, le lac de Derre, sur lequel aujourd'hui viennent nicher tous les oiseaux, qui est dans l'est, nord-est de la France, et qui est un lac complètement artificiel.
Alors, le lac de Derre, c'est presque la démonstration de ce qu'on ne devrait pas faire maintenant. Parce que le lac de Derre, ce qu'on ne devrait pas faire selon les politiques environnementales actuelles, c'est un lac artificiel qui a été créé il y a 30 ans, à peu près, sur un bocage. Donc, vous regardez Sivens et vous regardez le lac de Derre. Sivens, c'était plus ou moins la même chose. On voulait créer un grand lac. Bon, ce bocage, on l'a détruit, forcément. Donc, il y a moins d'oiseaux des champs, forcément. Et par contre, on a créé une grande zone humide, pratiquement la plus grande zone humide de France, qui attire beaucoup les oiseaux migrateurs qui viennent du nord de l'Europe. C'est une halte obligatoire, ou presque, maintenant, pour les grues cendrées, en particulier. Et j'ai eu l'occasion d'y aller à diverses reprises. C'est un spectacle assez intéressant de voir le matin, au lever du soleil, des dizaines de milliers de grues cendrées qui décollent avec le bruit, avec les cris, etc. Bon, c'est un très beau spectacle et je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que ce spectacle de nature, ça nous touche, ça nous émeut. Et on est bien d'accord pour que...
Et puis les grues sauvages, elles ont trouvé, important, elles se sont adaptées et maintenant c'est devenu une halte obligatoire, alors que c'est l'homme qui a construit tout ça.
Mais alors que c'est l'homme qui a
détruit pour construire.
Voilà. Donc, vous voyez, moi je dis souvent, quand on aménage ou quand on restaure, on gagne et on perd. On gagne parce qu'on crée de nouveaux habitats et on perd parce qu'on a détruit des anciens habitats. Mais il faut faire la balance. On ne peut pas simplement dire j'ai gagné ou j'ai perdu. À l'heure actuelle, ce lac du Derre, qui est un milieu tout à fait artificiel, a été labellisé site Ramsar, c'est-à-dire le Graal de la conservation. Voilà. Donc c'est un milieu artificiel. Donc quand on dit à l'heure actuelle, souvent sur les médias, que l'homme détruit la nature, ça m'interpelle.
C'est plus compliqué que ça. En tout cas, il ne faut pas simplifier, il faut y aller au cas par cas.
Il ne faut surtout pas simplifier. Et je pense que la situation que l'on connaît en France, elle n'est pas du tout la même que celle qu'on peut connaître en Amazonie ou à Bornéo. On a des situations, nous avons ici un passé, une culture, etc. Les autres aussi ont leur culture, mais pas la même, pas forcément la même.
Et donc il faut vraiment y aller au cas par cas. Alors justement, on va traverser un peu les continents autour de la question quelle histoire entre les hommes et les rivières. Je propose de nous arrêter auprès de Bruce Springsteen sur RFI, To the River.
I come from down in the valley where Mr. when you're young they bring you up to do like your daddy John. Me and Mary we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down
The River avec Bruce Springsteen sur RFI. Ça, c'est vraiment Christian Lévesque, le côté subjectif, hein, au bord de la rivière et tout ce qu'on a tous fait au bord des rivières.
Les poètes ont beaucoup chanté les rivières et le bord de la rivière a toujours été un lieu d'émerveillement.
Autour de la question qu'est l'histoire entre les hommes et les rivières, nous sommes donc en votre compagnie. Vous êtes hydrobiologiste et écologue, Christian Lévesque, et vous venez de publier aux éditions Ulmer La mémoire des fleuves et des rivières. Je vous propose tout de suite un nouvel éclairage pour nous rafraîchir la mémoire. Un éclairage du physicien urbain Stéphane Douady.
On se rend compte que les villes sont souvent faites par rapport aux rivières. C'est-à-dire qu'avant qu'on fasse des grands chemins et des moyens de transport, le transport via la rivière, les bateaux étaient très importants. Et les villes sont souvent faites à des gués. Paris, c'est là où on pouvait passer à cause des îles, on pouvait passer à la rivière le plus facilement possible, et dans un passage nord-sud. Et donc Toulouse, c'est pareil, c'est là aussi un passage un peu à sec. Et donc on est souvent construit vis-à-vis des fleuves.
Beaucoup de nos grandes villes sont effectivement construites au bord des fleuves. Ici, on est ici les Moulineaux, en banlieue de Paris, et on est au bord de la Seine.
Oui, les villes étaient construites à proximité des fleuves, mais parce que la navigation était un élément extrêmement important de l'économie autrefois.
C'est pour le commerce.
C'était pour le commerce et pour le transport des hommes aussi. Il n'y avait pas que les transports des marchandises, il y avait les coches d'eau, qui étaient l'équivalent des diligences, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de routes au Moyen-Âge. Les rivières étaient quand même les artères qui irriguaient le pays.
Sur les rivières.
Voilà, ouais. On circulait sur les rivières. Et il y avait des milliers de bateaux. L'étude des bateaux régionaux est toujours extrêmement intéressante parce qu'ils étaient adaptés finalement au type de rivière. La Loire, ce n'est pas le Rhône.
Et la Seine, ce n'est pas les mêmes bateaux.
Et il y avait des principes de navigation qui utilisaient le plus souvent le halage. Quand les bateaux étaient un peu gros, on avait des équipages de plusieurs dizaines de chevaux. Rendez-vous rendez-vous compte, plusieurs dizaines de chevaux.
Un autre paysage complètement.
Qui tiraient les bateaux. C'était extraordinaire. Je veux dire qu'il y a eu des bouquins écrits là-dessus sur les.
Mais c'est aussi pour qu'on n'oublie pas, enfin qu'on ait cette mémoire-là des cours d'eau et de nos rapports et de notre relation avec l'eau que vous avez eu envie de publier ce livre, Christian Lévesque.
Ben, ça faisait partie aussi, oui, effectivement, de mon rapport à la rivière qui a toujours été un peu un mélange d'apport à la fois de curiosité scientifique. Hein. Je vous disais tout à l'heure, pourquoi on a maintenant une telle diversité biologique dans nos rivières. Mais en même temps, je pense que la rivière a toujours été pour moi un lieu d'attrait. Enfin, j'ai toujours été aussi attiré par les rivières et j'ai toujours, dans mon pays, me suis intéressé aux aménagements qui avaient été faits, aux moulins et autres constructions qui ont pu, dans le passé, participer à notre économie. Quoi.
Et puis les fleuves, les rivières, c'était aussi des frontières. Hein. Alors aujourd'hui, on fait beaucoup de ponts, on parle des ponts, mais combien de fleuves et de rivières sont toujours et ont été des frontières infranchissables ?
Ben oui, on parle souvent du Rhin, hein, qui a été une frontière souvent fluctuante entre la France et l'Allemagne, mais il y a eu d'autres frontières. Et on voit bien que, souvenant, la frontière mythique de l'Antiquité, c'était le Rubicon.
Hein,
quand César franchissait le Rubicon, il était devenu le rebelle, hein, parce qu'on ne franchissait pas le Rubicon avec ses troupes autrefois, ou alors on était un traître pour Rome. Hein. Mais ça, c'est le symbole. On voit bien que quelque part, la rivière, ça marque un territoire, que si on franchit ce territoire...
On passe de l'autre côté.
C'est de l'autre côté, ouais. Sur l'autre rive. Ouais. Et l'autre rive, c'est une rive différente. Et dans les populaires, même sur les bords de la Seine, sur l'estuaire de la Seine, les gens vous disent ben c'est l'autre rive. Et l'autre rive, c'est pas celle où on habite.
Et à Paris, on dit rive droite et rive gauche.
Ce sont des étrangers. Voilà.
Donc ça montre beaucoup de choses. Et puis, c'est aussi une manière d'éclairer alors notre passé, notre mémoire, notre lien avec ces rivières et avec ces fleuves, mais aussi une manière d'éclairer notre temps présent. Vous avez beaucoup parlé de l'énergie, justement, qui était apportée autrefois par ces fleuves. Je vous propose une nouvelle question d'actualité soulevée par Caroline Tourbe du mensuel Science et Vie.
Les rivières sont utilisées depuis longtemps pour fournir de l'énergie. Est-ce qu'il y a encore des rivières en France qui pourraient être équipées? Alors, on peut penser à des barrages, mais pas forcément des gros ouvrages, des petits. Est-ce que c'est possible de compter sur les rivières pour fournir de l'énergie à la France ou à l'Europe?
Votre réponse, Christian.
Oui, alors, la réponse est un peu dans la question. Il y a déjà eu beaucoup de barrages qui ont été faits après la Seconde Guerre mondiale pour produire de l'hydroélectricité. Donc, en France, à l'heure actuelle, au niveau des gros barrages, on est relativement équipé. On est plutôt dans une phase de déconstruction de certains barrages qui sont devenus un peu trop vieux et donc dangereux. Alors la question, c'est est-ce qu'on les reconstruit ou pas ? Ça, c'est une question politique. Maintenant, au niveau des petites rivières, on a toujours la possibilité, à l'heure actuelle, d'installer des micro-centrales. La micro-hydroélectricité est quand même quelque chose de très actif à l'heure actuelle. On voit qu'il y a pas mal d'industries, de boîtes qui sont en train de construire des centrales de nouvelle génération, des hydro-centrales.
Et de petits volumes
qui permettent de se mettre dans des rivières de petites dimensions. Donc on a des potentialités. La question, est-ce que c'est accepté, est-ce que c'est acceptable par les politiques environnementales qui considèrent qu'à l'heure actuelle, il faut au contraire essayer de rétablir une continuité écologique des rivières et éviter les barrages dans les rivières qui empêchent la remontée, dit-on, d'un certain nombre d'espèces de poissons.
Vous dites-on, parce que vous avez étudié les poissons, le vivant dans les rivières. Donc qu'est-ce qu'il faut penser autour de ça? Est-ce qu'il faut effectivement plus aucun barrage pour que les poissons puissent circuler librement? Est-ce que, comme toujours, il faut adapter? Est-ce que c'est une sorte de voie du milieu qu'il faudrait trouver? Qu'est-ce que vous en pensez, Christian Lévesque? Vous êtes un peu hétérodoxe, iconoclaste, et vous brisez pas mal d'idées reçues sur l'écologie, justement.
Écoutez, je crois qu'il faut regarder les choses en face. Il y a certaines rivières sur lesquelles, si vous prenez le Rhône, vous avez une vingtaine de barrages, de grands barrages sur le Rhône. Quand vous êtes sur l'amont du Rhône, qu'il y a des petits barrages, des seuils de moulins, je ne vois pas vraiment l'intérêt de les supprimer dans la mesure où, de toute façon, les poissons migrateurs n'arriveront jamais là, plus jamais là, à moins de supprimer les grands barrages en aval. Hein, je crois que, voilà, ça c'est du bon sens. Hein, je crois qu'il y a... Maintenant, il y a peut-être des endroits où on peut imaginer que pour des raisons diverses, certains seuils ne sont plus utilisés, certains sont dégradés, donc on peut faire des passes à poissons aussi, dans un certain nombre de cas. Donc, je veux dire qu'on peut essayer d'arranger les choses, mais de manière au cas par cas, on disait tout à l'heure. Hein. On peut adapter en fonction des conditions locales, des préoccupations des gens aussi, parce qu'on peut leur demander aussi leur avis. Hein. Quand on veut détruire les seuils des moulins, vous voyez tout de suite que les propriétaires de moulins ne sont pas très contents quand, si on leur impose. Hein. Mais on peut imaginer des solutions adaptées au cas par cas, mais éviter surtout d'avoir une politique où on applique partout la même chose. Quoi. Ça n'a pas de sens en matière d'aménagement du territoire.
Et vous savez ce que vous dites, vous avez beaucoup travaillé à l'étranger, notamment sur le continent africain. Est-ce que là, par exemple, il y a aussi des pistes énergétiques, par exemple, autour de l'eau? Se posent aussi d'autres questions, hein, de sécheresse, de manque d'eau, mais aussi de crues et d'inondations. Qu'est-ce qu'on pourrait envisager? Alors, c'est très vaste, hein, ça dépend de quel coin d'Afrique on parle, mais dans ce que vous avez vu et pratiqué, ouais, étudié, Christian Lévesque.
Bah, écoutez, moi, je connais particulièrement bien l'Afrique de l'Ouest. Il y a quand même eu pas mal d'équipements de grands barrages au cours de ces dernières décennies. Je veux dire que vous prenez le lac Volta, mais vous prenez d'autres lacs au Mali, etc., ou au Sénégal. On voit bien que quelque part, on a quand même déjà utilisé en partie l'énergie des rivières pour faire de l'électricité. Mais ce sont des grands barrages. Hein. Alors, par contre, je peux vous citer un exemple tout à fait intéressant, qui sont les petits barrages que l'on rencontre au nord de la Côte d'Ivoire, au sud du Mali et du Burkina Faso, qui sont des petits barrages faits sur des petits cours d'eau, hein, et qui, justement, ont été faits pour des raisons pastorales au départ, pour faire des points d'eau pour le bétail. C'est devenu un point intéressant pour les villageois parce qu'il y avait de l'eau en permanence. On y a mis des poissons, donc on peut pêcher. Et puis maintenant, on fait de la culture sur les bords du lac, de ces petits lacs, de ces petites retenues. On fait des oignons, on fait des cultures maraîchères. C'est devenu un centre d'attraction pour beaucoup d'animaux parce que dès qu'il y a de l'eau, il y a de la vie. Il faut bien se dire ça.
C'est ça.
Quand il y a de l'eau, il y a de la vie. Et donc, le paysage s'est transformé complètement. J'ai vu ça en quelques décennies. Le paysage du sud Burkina Faso, du nord Côte d'Ivoire, c'est devenu un paysage beaucoup plus vert, alors que c'était un paysage en saison sèche très aride.
Donc là, c'est un aménagement réussi. Aménagement local réussi.
Alors, je vais toujours tout de suite vous dire que il y a toujours du plus et du moins.
Bien sûr.
Avec ces petits aménagements, on a introduit aussi des maladies, comme la bilharziose.
Donc il y a la médaille à son revers. Hein.
Mais
l'eau, c'est la vie, mais c'est la vie pour tout le monde et pour les microbes aussi, bien sûr.
Alors, la bilharziose, on peut la traiter, mais bon, encore faut-il la traiter.
Alors pourquoi toute l'histoire finalement de notre humanité est partout s'écrit au fil de l'eau? Christian Lévesque, on continue de s'interroger en faisant un petit clin d'œil à votre patrie d'origine, c'est la Belgique. Hein.
Non, le nord,
le nord de la France.
Le nord de la France.
En tout cas, c'est le plat pays.
La frontière.
Allez, à la frontière. Donc le nord de la France, le plat pays qui est le mien. Jacques Brel, réinterprété, revisité par Alexis HK sur RFI, juste pour le plaisir.
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague, et des vagues de dunes pour arrêter les vagues, et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse. Avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'Est, écoutez-le tenir, le plat pays qui est le mien. Avec des cathédrales pour unique montagne, et de noirs clochers comme mâts de cocagne, où des diables en pierre décrochent les nuages, avec le fil des jours pour unique voyage, et des chemins de pluie pour unique bonsoir, avec le vent d'ouest, écoutez-le vouloir, le plat pays qui est le mien. Thank you. avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer. Le plat pays qui est le mien.
Alexis Hachka sur RFI qui réinterprète le plat pays de Brel et le vôtre aussi. Christian Lévesque, peut-être pour ça, vous aussi vous avez eu la mer du Nord pour horizon et les canaux pas loin. C'est pour ça que vous êtes devenu hydrologue et passionné par l'eau et les rivières et les cours d'eau.
Et pendant les vacances, on allait sur les bords de la mer du Nord. Hein, voilà. Et puis le pays plat, ben, il n'y a pas beaucoup de torrents, donc on a des canaux. Et c'est un pays qui a été fortement irrigué par les canaux. Voilà. Il en reste quelques exemples du côté d'Amiens, avec l'ortillonnage d'Amiens par exemple.
Et, ouais. Et c'est vrai que la vie humaine, les villes humaines se sont aussi construites. Elles sont magnifiques, toutes ces villes au bord des canaux. On peut penser que ce soit à Venise, en Chine, Bruges, un peu plus haut. La vie s'est concentrée autour de ces canaux qui, là aussi, sont des aménagements.
Ben, les canaux sont des aménagements et là, il y a toute une histoire des canaux extrêmement intéressante parce que pour pratiquer la navigation, il fallait souvent interrompre la navigation pour passer d'un bassin versant à un autre. Donc on a pensé déjà vers le XVIe siècle à creuser des canaux entre qui mettaient en communication les différents bassins versants, de telle sorte que la France maintenant est sillonnée de canaux qui mettent en communication la Loire, le bassin parisien, le bassin du Rhône, et vous avez donc un immense espace, non seulement français mais européen, Schengen, hein, on pourrait dire,
où les... De l'eau, des canaux et voilà, des réseaux,
un véritable maillage. Alors, une anecdote, parce que c'est toujours un peu amusant, Charlemagne, qui souhaitait épouser l'impératrice de Constantinople, avait imaginé qu'il pourrait partir en bateau depuis le Rhin, où il habitait, en passant par le Danube, pour arriver à Constantinople. Et donc il avait commencé à creuser un canal entre le bassin du Rhin et le bassin du Danube. Le canal, pour des raisons diverses, n'a pas pu être achevé, parce que la situation géologique était compliquée. Mais ce canal, finalement, a été créé il y a une trentaine d'années. On a créé un canal à grand gabarit.
Rhin-Danube.
Entre le bassin du Rhin et le bassin du Danube. Alors, tout de suite après, on a vu arriver, et ça c'est mon sentiment d'écologue qui reprend le dessus, on a vu arriver tout un tas d'espèces danubiennes dans les rivières européennes et françaises. Des poissons, des mollusques, des crustacés. Vous voyez, la mise en communication des bassins, c'est un peu comme l'ouverture du canal de Suez avec les espèces de la mer Rouge. On a vu arriver, remonter les espèces danubiennes dans les rivières européennes et françaises.
Et oui, donc parfois les hommes ouvrent des voies de navigation pour d'autres animaux aussi. C'est
voilà,
ça que vous nous dites,
donc hein. Nous avons un espace Schengen au sens où toutes les espèces aquatiques peuvent circuler.
Un espace Schengen aquatique, réseau de l'eau. Alors l'eau, c'est aussi des esprits, hein, un peu partout. Il y a les esprits de l'eau, ils sont sacrés. Je propose en clin d'œil à votre mémoire aquatique en Afrique, Christian Lévesque, de nous arrêter sur une divinité de l'eau qui a traversé les frontières avec le vaudou. C'est Mami Wata, version Eric Bibb sur RFI.
Yafosa mami wata, ojina musome tole mami wata, ojina musome tole mami wata, yawale mami wata, mami wata, yawale. This melody years ago, you can hear it on the CD, Brothers in Bamako. We played it round the world, moon to moon, together with Sebastian's tune.
Eric Bibb sur RFI avec Mamie Wata, déesse aquatique que vous avez eu la chance de croiser, Christian Lévesque, c'est
ah,
ça ?
Ah, je l'ai rencontré il y a quelques
Mamie
années
Wata.
À Saint-Louis du Sénégal, dans un bar, très correct, mais une magnifique représentation de Mamie Wata, qui figure d'ailleurs dans l'ouvrage que j'avais publié sur les peuples de l'eau.
Peuples de l'eau et poissons d'Afrique, avec Mamie Wata, divinité de l'eau, autour de la question quelle histoire entre les hommes et les cours d'eau, les fleuves et les rivières, en compagnie donc de Christian Lévesque. Vous êtes hydrobiologiste, je le rappelle, et spécialiste des milieux aquatiques océaniques et du vivant hein, dans ces milieux aquatiques océaniques. Vous nous faites partager la mémoire des fleuves et des rivières dans un très bel ouvrage, une mémoire qui peut remonter carrément jusqu'aux origines de la vie. C'est l'éclairage du volcanologue Arnaud Guérin, qui était récemment notre invité.
Parfois, sur les volcans, il existe des rivières qui sont réellement des rivières, c'est-à-dire un écoulement d'eau qui se fait à partir d'une source, mais cette source est une source chaude qui peut être à plusieurs centaines de degrés. Et donc, on va avoir une rivière d'eau chaude qui va couler. Je me rappelle d'une exploration que j'ai faite en Islande, dans un glacier où on avait des rivières d'eau chaude. Et en fait, on remontait sous la glace, dans ce réseau souterrain, vers les sources d'eau chaude. Ça donnait une espèce de tunnel de métro absolument extraordinaire. Et en fait, on s'est aperçu que dans ce tunnel de métro, eh bien, il y avait des formes de vie qui se développaient sous forme de petites bactéries. Ça intéresse réellement beaucoup les biologistes parce que dans ces eaux chaudes, on a les premiers éléments de ce qui a été certainement la vie il y a 3 milliards 500 millions d'années, les premiers balbutiements de la vie, ce qu'on appelle les extrémophiles, qu'on a découvert aussi sous les océans. C'est vraiment, quand vous regardez ça, vous regardez vraiment par le petit bout de la lorgnette, les origines de la vie sur la planète. Et ça, c'est extrêmement émouvant également.
L'origine de la vie sur la planète, à chercher dans ces réseaux, notamment souterrains d'eau chaude, ça vous inspire quoi, Christian Lévesque ?
J'aimerais bien connaître plus. Je pense qu'effectivement, ces sources d'eau chaude souterraines me rappellent des choses que j'ai relativement bien connues. C'est les sources hydrothermales des grands fonds, que l'on trouve également au niveau du lac Baïkal. On en trouve aussi dans le Baïkal.
Ce sont des sources extrêmement profondes.
Les sources très profondes d'eau chaude, avec une vie relativement exubérante dans ces milieux abyssaux, hein, en mer.
Et des formes de vie, enfin, pour nous, étranges.
Oui, il y a des crevettes, il y a des bactéries, effectivement. Puis il y a surtout une forme de production de matière organique qui est totalement différente de la photosynthèse, parce qu'il y a c'est de la chimiosynthèse. Ce serait intéressant de savoir si dans ces sources d'Islande, on trouve aussi ce phénomène de chimiosynthèse. Il n'y a pas de lumière, donc il ne peut pas y avoir de photosynthèse. S'il y a de la vie, elle part de quoi ? Et effectivement, c'est une interrogation sur les possibilités d'apparition de la vie autrefois. Ce n'est pas une démonstration, mais c'est une possible piste.
Comme quoi, quand des chercheurs s'intéressent aux vivants, c'est dans l'eau, hein. L'eau, c'est vraiment la source, l'origine de la vie, et c'est probablement là que sont apparues les premières formes de vie. On vient tous de l'eau, hein.
Oui, on pense qu'il y a une soupe primordiale, comme on dit, hein. Je veux dire que la vie serait née dans des milieux assez riches en éléments minéraux, pas très profonds, et voilà.
Voilà pourquoi on la cherche jusque dans l'espace, hein, des traces d'eau, parce que peut-être ça signifierait qu'il y a des traces de vie.
Oui, il n'y a pas de vie sans eau, ça c'est clair. Je crois que même les espèces terrestres ont besoin d'eau. Donc on voit bien que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie.
Alors parmi tous les cours d'eau, toutes les rivières, tous les fleuves que vous avez traversés, visités, étudiés, est-ce qu'il y en a un ? Qu'est-ce que vous pourriez nous faire partager comme expérience aussi sensible, hein ? Vous avez parlé de ce rapport sensible qu'on a à l'eau, à ces rivières. Quel moment ? Qu'est-ce que vous pourriez nous faire partager, Christian Lévesque ? Je ne sais pas sur quel continent, parce que vous avez travaillé sur les cours d'eau dans beaucoup de continents.
Ah, moi, j'ai des souvenirs d'Afrique, et j'ai beaucoup travaillé sur le Bandama en Côte d'Ivoire en particulier,
Fleuve. C'est où le Bandama ?
Le Bandama, c'est un fleuve qui traverse la Côte d'Ivoire du nord au sud. C'est un des grands fleuves de Côte d'Ivoire où j'ai à différentes reprises mis les pieds dans l'eau, quoi, si on peut dire. Hein. Traîner mes bottes dans l'eau, hein. On faisait des pêches électriques, etc. Et les nuits au bord du Bandama, dans un lit de camp, sous une moustiquaire, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. En écoutant les bruits de la brousse, en écoutant l'eau qui murmure, hein, à côté, les petits rapides, etc. Bon, voilà, c'est un grand moment. Voilà.
Un grand moment que vous gardez en mémoire, mais on l'a dit, c'est pas seulement la mémoire des fleuves et des rivières que vous voulez nous faire passer, c'est aussi leur devenir, hein, leur avenir. Un autre de vos ouvrages intitulé « Les rivières ont-elles un avenir ?» je crois, c'est ça.
« Quelle rivière pour demain ?»
Ah, « Quelle rivière pour demain ?» pardon. Ben justement, « Quelle rivière pour demain ?» Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour nous inciter ? Peut-être pas toujours, vous l'avez dit, pas toujours à les restaurer, pas toujours à les préserver. Comment est-ce qu'on peut faire pour rester dans cette voie du milieu, dans le lit de la rivière?
Ben, s'il y a une chose à faire en premier lieu, pour moi c'est vraiment l'essentiel, c'est limiter les pollutions. Je crois que c'est ça le fond du problème de l'écologie aquatique à l'heure actuelle. On peut imaginer à faire des aménagements, réaménagements, etc. Mais l'essentiel à l'heure actuelle, c'est quand même la pollution. Les pollutions de toute nature, elles, qui ne sont pas seulement agricoles. On a toujours tendance à parler des pesticides agricoles, mais il y a aussi toutes les pollutions des villes. Hein. On parle à l'heure actuelle des polluants émergents, hein, ceux qui provoquent des manifestations physiologiques. Hein.
Donc, des perturbateurs endocriniens, par exemple.
Oui, perturbateurs endocriniens.
Mais aussi des médicaments, des antibiotiques.
Oui, voilà. Il faut savoir que sur l'estuaire de la Seine, il y a quelques années, on avait fait des évaluations. Vous avez plusieurs kilos d'équivalent aspirine qui passent chaque jour. Hein. Plusieurs kilos.
Hein, c'est énorme.
Et vous mettez toutes les anxiolytiques, etc.
Oui, qui vont dans l'eau, qui sont...
Qui sont transportés, puisque finalement, les stations d'épuration épurent un certain nombre de choses, mais pas ces produits. Elles ne sont pas faites pour ça. Donc tous ces produits, évidemment, se retrouvent à la mer. Donc, et dans l'eau et à la mer. Donc pour moi, vraiment l'essentiel, c'est d'essayer de limiter les pollutions. Je ne vais pas dire supprimer, ça n'a pas de sens supprimer, hein, mais limiter les pollutions. Quoi.
Être conscient et comprendre que c'est ça la vraie question, la grosse question aujourd'hui, c'est ça.
Oui, parce que dès qu'on a des démonstrations que quand on a limité les pollutions, la vie revient de manière exubérante.
Hein. Elle revient vite,
elle
ça s'adapte
très vite.
Elle
s'adapte très vite, la vie.
Dans un sens comme dans l'autre, hein, c'est
oui,
ça.
Ouais.
Merci infiniment, en tout cas, de nous avoir fait passer tout ça, mine de rien, au fil de l'eau, Christian Lévesque. Merci d'avoir partagé autant de pistes aquatiques, donc écologiques et humaines. Je rappelle le titre de votre ouvrage très complet, très riche et magnifiquement illustré, hein, La mémoire des fleuves et des rivières, l'histoire des relations entre les hommes et les cours d'eau à travers les siècles, qui est paru aux éditions Ulmer. Et puis, je ne résiste pas à citer aussi un de vos précédents ouvrages, superbe lui aussi, et collectif, paru aux éditions de l'IRD, Poissons d'Afrique et Peuple de l'eau. Merci Christian Lévesque.
Merci
Caroline.
Quand
vous voulez.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation et Juliette Brault en coulisses. Autour de la question, comment la science infuse et se diffuse, vous nous retrouverez autour de notre table ronde mensuelle avec nos confrères et consoeurs de la presse scientifique, venus comme chaque mois avec quelques exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner. Avis aux amateurs. Merci en tout cas de votre fidélité et de votre curiosité. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal. Thank you.